Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
Jean-Baptiste, donc Marseillais. C'est important de dire, Jean-Baptiste, que vous êtes médecin. Donc vous avez un avis un peu plus autorisé peut-être que la moyenne des uns ou des autres. Pourquoi ne croyez-vous pas au reconfinement ou au confinement plus exactement de la ville de Marseille?
Parce que maintenant, ça fait 10 mois qu'on joue sur le confinement, déconfinement, reconfinement, on est face à des bouffées épidémiques récurrentes, alors de variants ou pas de variants, j'en sais rien, mais a priori, oui, ça semble être le modèle de ce virus, des variants qui évoluent par bouffées épidémiques. Et moi, à titre personnel, le confinement, je n'y crois pas à titre collectif, ou alors vraiment à la marge. Mais
vous êtes généraliste ?
Enfin, je travaille en centre de réadaptation et je travaille sur une unité Covid actuellement, puisqu'on a ouvert une unité d'un deuxième étage Covid. Donc je reçois des patients directement des urgences et on gère des patients Covid alors des plus de 75 ans. Mais voilà, enfin, vous m'entendez ?
Oui, je vous écoute.
Ouais. Les mêmes qui prônaient des règles méthodologiques drastiques prônent des stratégies de confinement qui ne sont absolument pas démontrées scientifiquement.
Mais alors, la stratégie alternative, c'est laquelle ?
Mais en fait, je pense que on doit sortir. Enfin, cette crise-là, elle met en évidence une notion de paradigme, je pense. C'est-à-dire que là, on raisonne sur un paradigme soit tout blanc, soit tout noir. Mais comme s'il n'y avait pas de nuance de gris entre les deux, je pense que la stratégie adéquate aurait été de faire face, sur le plan sanitaire, de faire face à une épidémie comme il y en a tous les ans. Alors celle-là un peu plus longue et un peu différente, mais armer les médecins, armer des places de réanimation et de manière assez flexible, et arrêter de faire peur aux gens constamment. Parce que moi, je pense
armer les médecins, ils ne peuvent pas soigner, il n'y a pas de médicaments.
Mais enfin, il faut donner les moyens aux gens, tout simplement.
Et oui, mais je comprends pas cette phrase. C'est quoi donner les moyens aux gens s'il n'y a pas de médicaments qui soignent à 100%? Sauf erreur de ma part.
Ah, mais c'est une erreur de votre part, parce que c'est, encore une fois, vous avez le même raisonnement que la plupart des politiques actuellement.
C'est-à-dire qu'il y a des médicaments qui soignent la Covid-19?
Non, mais l'examen clinique et la prise en charge des patients soignent les gens. L'hospitalisation, c'est-à-dire examiner les patients, faire une évaluation médicale avec l'évocation de diagnostic différentiel, de l'imagerie, de la couverture antibiotique pour prévenir les risques de surinfection, de l'anticoagulation pour prévenir les risques d'embolie pulmonaire, et ce genre de choses. Et pas courir après une infection, mais anticiper les risques. Quand vous faites face à une épidémie grippale l'hiver, il n'y a pas de médicaments qui soignent la grippe. On a du Tamiflu, mais bon, le Tamiflu, c'est ce que c'est. On n'a pas de médicaments qui soignent spécifiquement la grippe. Pourtant, on fait face. On met des antibiotiques, on fait une couverture antibiotique, on évalue les gens, on réévalue les gens. Quand on s'approche de critères de gravité, on les transfère en réanimation pour prendre en charge les grandes défaillances d'organes. C'est qu'il faut soigner les gens, tout simplement. Il faut arrêter de penser qu'on va avoir un médicament qui va faire disparaître complètement cette épidémie. Moi, j'y crois pas, y compris la vaccination.
Mais la vaccination, quand même, a priori, c'est la solution.
C'est une solution parmi tant d'autres.
Oui, mais celle-là, elle est quand même, parmi tant d'autres, elle est plus efficace, quand même, puisque par définition, après, on est immunisé, on ne transmet pas la maladie.
Vous les avez, les données, vous, qui le démontrent? Pour l'instant, moi, j'en ai pas.
J'écoute les médecins.
Moi, j'attends encore une fois qu'on nous livre des vaccins. Ça ne devrait pas tarder. On va commencer à vacciner, il n'y a aucun souci. Mais je crois qu'il faut anticiper et garder à l'esprit qu'il va falloir soigner.
Vous
ne
nous rassurez
gens,
pas beaucoup, Jean-Baptiste. Mais restez là, puisque Cédric, lui... Alors, Cédric, il est chef d'entreprise. Il habite Bourg-en-Bresse. Bonjour, Cédric.
Bonjour, Pascal.
Vous êtes d'un avis largement différent. Alors, je rappelle que Jean-Baptiste était médecin et vous êtes chef d'entreprise. Je ne sais pas qui a le plus raison ou qui connaît le plus la situation médicale.
J'ai de plus en plus de mal à... Enfin, c'est pas faire confiance, parce qu'on peut pas dire ça à un médecin, parce qu'ils arrivent pas à s'entendre déjà entre eux en étant du même bord. Là, par exemple, je suis un peu sidéré par ce que je viens d'entendre de la part d'un médecin. Mais bon, après, c'est qu'un avis personnel. Moi, c'est surtout pour dire que, à l'inverse, justement, de ce médecin, c'est que je me dis, d'abord, reconfiner Marseille, ça servirait pas à grand chose puisque ça empêcherait pas la circulation entre villes et entre régions, même si on reconfinait une ville. Aujourd'hui, pour moi, il faudrait reconfiner tout le monde.
Ah bon.
Non mais je vais m'expliquer.
C'est-à-dire on ferme les magasins, on ne garde que les magasins essentiels, on enlève les enfants des écoles, c'est ça votre projet?
Ah mais complètement. Je vais vous expliquer pourquoi. On a eu une conférence de presse dernièrement avec le Premier ministre et le ministre de la Santé, donc Jean Castex et Olivier Véran. Olivier Véran nous explique, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est dit dans la conférence de presse, que le variant du coronavirus, enfin du Covid-19, il est 40 à 70% plus contagieux. Il touche beaucoup plus les jeunes, sans pour autant être plus dangereux, hein, il l'a dit, hein, c'est pas moi qui l'invente, il l'a dit. Donc on le sait, on se rend compte là en quelques jours, la rapidité de contagion de ce virus, on s'en rend compte puisqu'aujourd'hui ça touche 9 régions sur 13 je crois, ou quelque chose comme ça. Donc on le sait, ils le disent, ils l'annoncent, mais on fait rien. Ça veut dire qu'on attend que la maison soit brûlée pour appeler les pompiers. Et c'est comme ça depuis le début. Ça veut dire qu'on n'anticipe pas les choses. On n'a pas réussi à anticiper l'arrivée du Covid-19 en France. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une variante et on sait ce qui va se passer, mais on n'anticipe pas. Ça veut dire, à un moment, on reconfine tout le monde. On reconfine. Et on s'occupe des gens qui ont envie de se faire vacciner. On arrête d'essayer de convaincre ceux qu'on ne peut pas convaincre. On s'occupe des gens qui veulent aller dans le même sens. Et là, on arrivera à s'en sortir. Mais en reconfinant, on va maîtriser ce variant. Parce que ce n'est pas quand ce sera trop tard qu'il faudra dire « Oh, bah maintenant, on reconfine tout le monde parce que c'est trop tard. » C'est incroyable quand même. C'est incroyable.
Merci Cédric de ce premier témoignage. C'est lundi. On va avoir bien le moral. Greg Caradoni.
Bonjour à tous.
Il y a un an, c'était le premier mort de la Covid-19. Ça fait quasiment, pas un an, mais au moins 10 mois que nous ne parlons que de cela, matin, midi et soir. Et on est lundi et je suis déjà lassé de ça. Mais en même temps, que faire d'autre?
Vous viendrez quand même demain?
Nul ne connaît ni le jour ni l'heure, je vous le rappelle.
C'est vrai.
Hein, bon, je ne me le souhaite pas, mais
moi non plus.
A priori, je serai là demain. Mais c'est terrible ce que dit Cédric. C'est terrible, puisque effectivement, c'est un jour sans fin. C'est Christelle qui a commencé son journal comme ça tout à l'heure. Un jour sans fin. Le film avec Bill Murray. 13h08, la pub, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur...
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Notre ami réalisateur Greg Caradoni, qui a un sens aigu de l'information, s'étonne du mot variant. Et il imagine qu'on utilise le mot variant pour ne pas utiliser le mot mutant, qui ferait davantage peur.
Beaucoup plus anxiogène.
A-t-il raison ou pas? Je n'en sais rien.
Je pose la question.
Le mutant, c'est vrai que le virus mutant est un peu plus peur et variant et plus doux. Donc je retiens son hypothèse.
Eh bien, vous pouvez.
Bonjour,
vous
Laurent
appeler
Tessier.
Pour témoigner. Bonjour Pascal, bonjour à tous. La situation virale est inquiétante à Marseille. Faut-il reconfiner la ville? Question sur nos réseaux sociaux. Eh bien, il n'y a pas que la cité phocéenne. Réagit Cédric sur la page Facebook. Il faut reconfiner pour la troisième fois tout le pays. Lionel demande à agir rapidement. Reconfinons dès demain, c'est inévitable. Et ne nous focalisons pas seulement sur Marseille. Réagit Jeanne, hein, mais il faut respecter encore plus les gestes barrières. Testons aussi le plus possible. Et la semaine démarre bien, nous dit Fred. Je n'en peux plus de ce coronavirus et je suis comme vous, écrit à l'instant Monique. C'est long, c'est un jour sans fin. On va tous devenir complètement zinzin. Qu'en pensez-vous, Pascal?
Ah, ça, je pense qu'on l'est déjà, si vous me permettez. Le variant, précisément, anglais de la Covid-19 continue de faire donc des ravages à tel point que l'OMS demande à l'Europe de faire plus pour limiter sa propagation. Selon certains épidémiologistes, les mesures actuelles ne vont pas suffire pour freiner ce variant plus contagieux. Olivier Véran a estimé que des mesures supplémentaires seront imposées s'il y a flambée de l'épidémie. Mais pour le moment, il dit que ce n'est pas le cas. Nous étions donc avec Jean-Baptiste, nous étions également avec Cédric et on va être peut-être avec Cécile. Bonjour Cécile.
Oui, bonjour Pascal.
Et merci d'être avec
nous. Et bonjour toute l'équipe. Je vous en prie.
Vous habitez Marseille ?
J'habite Marseille. C'est la troisième fois que je vous ai en moins de 15 jours, je pense. Je suis celle qui est partie au Brésil, qui est revenue du Brésil.
Ah oui, vous avez dit effectivement que le Brésil, ça se passait plutôt bien. Et quand vous êtes arrivée à Roissy, ça a été un coup de massue.
Oui. Donc bon, déjà, je rebondis sur les termes.
Il y a moins de morts, je vous coupe, pardonnez-moi, il y a moins de morts pour 1000 habitants au Brésil qu'en France. Mais c'est vrai qu'au Brésil, tout le monde vit dehors, donc il fait chaud.
Je vous l'avais dit, c'est ce que j'avais dit, sauf que j'étais en conversation avec un membre du gouvernement qui m'avait juste agressé en me disant que si j'avais été confrontée à des morts du Covid, je ne réagirais pas comme ça. Je n'ai pas pu reprendre la parole après puisque j'ai été coupée. Mais j'ai été confrontée à des morts du Covid. Je suis très triste de ne plus avoir mes grands-parents que j'adorais plus que tout. Donc je ne dénigre pas les vieux, je ne dénigre pas non plus la maladie. Et c'est insupportable de se faire culpabiliser quand on dit des choses qui ne vont pas dans le sens du gouvernement ou dans le sens des médecins en disant que j'ai pas été touchée de près par des morts du Covid, ce qui est faux en plus.
Bon, donc ce qui nous intéresse, c'est confinement ou hors notre confinement.
Tout à fait. Donc, je rebondis par rapport à l'interlocuteur précédent. Là, les seuls points sur lesquels je suis d'accord avec lui, c'est que on parle de variant qui est plus contagieux mais qui n'est pas plus dangereux. Et qu'il faudrait effectivement laisser le libre choix à ceux qui veulent ou non se faire vacciner ou pas. Pour le reconfinement, bien évidemment que je suis contre. J'ai vécu un confinement qui était fantastique. Moi, j'adore avoir ma famille avec moi, c'était top. Sauf que je ne suis pas égoïste et que j'estime que c'est terrible pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, la majorité. Donc le reconfinement, absolument pas. Et je tiens à le répéter parce que je l'avais dit à demi-mot la première fois. Si on continue, comme je viens de l'entendre il y a 2 secondes, se faire encore plus tester, si on continue de se faire tester pour tout, tous les jours, par curiosité, pour des anniversaires, pour des fêtes, parce qu'on doit rencontrer son grand-père, sa grand-mère, bien évidemment qu'on va continuer à avoir que des cas positifs, parce qu'il y a une grosse contagiosité. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de morts et que c'est une maladie qui fait autant de morts que ce qu'on peut faire peur aux gens qui n'écoutent que la télé, la radio, et qui ont peur et qui croient tout ce qu'on leur dit. Il y a des morts, je ne minimise pas la gravité des conséquences de la maladie. Mais comme je disais déjà, les conséquences de ce que nous vivons psychologiquement, elles sont bien pires. Les gens, moi la première, sont hyper agressifs, hyper en colère. Les jeunes, on les a sacrifiés.
Ça c'est vrai, les jeunes, on n'en parle pas assez, notamment les étudiants, c'est un drame. Je suis d'accord.
Les étudiants, c'est un drame.
Je suis d'accord.
Les filles sont rentrées du Canada, il y a une famille qui est allée chercher les cendres de leur fille parce qu'elle s'était foutue en l'air au Canada. C'est encore pire, il y a de la délation au Canada. Le monde, c'est n'importe quoi. Donc un confinement, c'est encore plus créer de la précarité. Et Marseille, c'est la ville la plus pauvre de France. Reconfiner encore...
Ça, je ne sais pas si c'est la ville la plus pauvre de France, Marseille.
C'est ce qui se dit. Il y a les plus grosses fortunes, mais il y a aussi la plus grosse misère. Donc ceux qui sont déjà en précarité, ceux qui sont déjà limites, c'est encore pire. Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ont de fainéants à Marseille, ceux qui ont quitté le monde du travail réel présentiel, ils ne s'y remettent pas et vas-y que l'État paye. Je ne vois pas comment l'État va faire pour continuer à payer.
Faisons attention aux généralités aux Marseillais. En même temps, quand vous dites qu'il y a beaucoup de fainéants à Marseille, je me permets de penser à nos amis marseillais. Alors en revanche,
je suis marseillaise.
De reconfinement, il y en aura. Peut-être pas, en tout cas pas ce jeudi. Mais ce qui est certain, c'est que le couvre-feu avancé à 18h est une possibilité, comme il est désormais dans 8 nouveaux départements.
Mais ça y est, on est à 18h depuis hier soir.
Voilà, le Var et la Drôme devraient également faire de même ce mardi, je pense.
Mais je ne comprends pas comment gens de cette sphère politique peuvent faire ce genre de choses. 18h, ça sert à quoi? Ça veut dire qu'on se regroupe tous?
Mais parce que ça a marché, paraît-il, en Guyane. Passés le Cher, l'Allier, la Côte d'Or, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, le Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence et donc les Bouches-du-Rhône. La Marseillaise que vous êtes le sait. Donc vous êtes à 18h. C'est-à-dire que tout le monde, ça va précipiter la sortie du travail, évidemment. C'est-à-dire que les commerces doivent être de sécurité. Les commerces essentiels sont fermés, par définition, je pense, après 18h, puisqu'on n'a pas le droit de sortir.
C'est ça, c'est qu'on finit nos courses, on finit notre travail, il ne faut pas même aller faire les courses, parce qu'il faut quand même un minimum.
Oui, mais là, il n'y a pas d'attestation, le couvre-feu, on doit être chez soi, je ne suis pas sûr qu'il y ait une attestation pour pouvoir faire ses courses. D'ailleurs, il faut se renseigner là-dessus, on n'est pas dans la période du confinement. Tous les magasins ferment à 18h, même les magasins essentiels. Parce qu'on considère qu'on a toute la journée pour avoir acheté ses courses. Hein, nous sommes d'accord, donc ça ne va pas être facile. Donc il peut y avoir des embouteillages même avant 18h. Et au total, c'est donc 23 départements qui sont soumis à cette mesure aujourd'hui en France. Et la Haute-Savoie et Lyon, qui ont aussi des indicateurs préoccupants, ont en revanche maintenu le couvre-feu à 20h. Mais ce qu'on a peur jeudi avec les annonces de Jean Castex, c'est couvre-feu à tout le monde, pour tout le monde à 18h en France.
C'est grave de faire une chose pareille. C'est vraiment grave quand même. On se demande qui prend ce genre de
décisions. Qui prend ces décisions, on sait qui les prend. Mais ce qui est frappant, c'est que depuis le début de cette crise, on le dit sans arrêt d'ailleurs, l'opinion publique, elle est peu alertée. Quoi, peu alertée. On lui demande pas vraiment son avis. Alors, il y a des sondages. Manifestement, les sondages expriment une volonté de restriction. Hein, c'est incontestable. Mais au-delà de ça, il y a rien d'autre. 13h18, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et parmi les petites informations du jour, sachez que le gouvernement va proroger la loi sur l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin. Ça devrait passer en Conseil des ministres cette semaine. Et ça sera à l'Assemblée nationale le 18 janvier. Et ce serait voté au Sénat le 25 janvier. Nous sommes donc avec Nicolas à présent. Merci Cécile, hein, sauf si vous avez un mot à rajouter, mais merci. Et puis tenez-nous au courant parce que votre avis effectivement nous intéresse. Il est un poil différent parfois du politiquement correct. Bonjour Nicolas. Merci.
Au revoir.
Au revoir Cécile.
Au revoir.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous.
Je vous en prie.
Votre avis sur cette situation qui perdure.
Perdure. Je dis toujours que si on demande effectivement à une population d'être chez elle, c'est qu'il y a des raisons sanitaires, sans nul doute. Mais il est vrai que moi qui suis élu maire adjoint d'une ville qui se nomme Compiègne, nous serions des bons petits soldats si on nous sollicitait par le fait à nouveau d'être confinés. Mais ce serait économiquement draconien et totalement négatif pour les commerçants, pour les artisans, pour les entreprises, même pour les collectivités. Je trouve que reconfiner, si on devait le faire, oui, mais à quel prix ? À quel prix pour les métiers de bouche, les cafetiers, les hôteliers ?
Vous êtes des républicains, c'est important de le dire, Nicolas.
Oui, tout à fait.
Faut le dire, parce qu'effectivement, vous pouvez vous opposer au gouvernement.
Mais bien sûr, d'autant plus. Que ferions-nous si nous étions au gouvernement ? Voilà la question que je me pose souvent.
Oui, ça m'intéresse, parce que je trouve que l'opposition est assez muette globalement. J'ai l'impression que je n'entends pas de politique alternative de quelque côté que ce soit.
Alors, est-ce qu'il se pose la question telle que je me la pose en disant que ferions-nous ?
J'imagine qu'ils se posent, mais pour tout vous dire, je pense qu'ils ont un peu peur d'être piégés par une parole qui, dans 6 mois, pourrait revenir comme un boomerang. Donc, comme ils ne sont pas aux affaires, ils se taisent.
Et se retourner contre eux avant les élections régionales.
J'ai ce sentiment, c'est vrai pour Marine Le Pen, c'est vrai pour Jean-Luc Mélenchon, même s'il a mis en cause le vaccin, c'est vrai pour les Républicains. J'ai l'impression qu'il y a un consensus sur ce que fait le gouvernement aujourd'hui.
En revanche, il est vrai quand même que...
Mais qu'est-ce que vous feriez, vous, par exemple ?
Ah, moi, je pense qu'effectivement, si tel est tel cas, je suivrais les investigations des chercheurs.
Des chercheurs ou des médecins ? Donc vous feriez en gros ce qu'a fait le gouvernement ?
J'allais dire des chercheurs, non pas des médecins que je vois trop sur les plateaux ou entendre à la radio.
Mais répondez-moi, vous feriez ce que vous auriez fait globalement ? Qu'est-ce que vous n'auriez pas fait que le gouvernement a fait depuis mars ?
Je n'aurais pas, en seconde position, fermé les restaurants et les bars. Lors du premier confinement, il fallait sans doute essayer, voir quels étaient les résultats suite à un confinement, une fermeture drastique des restaurants et des bars. En second confinement, je n'aurais pas fermé. Quand vous allez dans les grandes surfaces, vous vous rendez compte quand même la proximité, la promiscuité. Moi, je fais mes courses pour un élu du peuple. Je suis dans les grandes surfaces. Il y a trop de monde. Je n'ai pas plus risque, à mon avis, d'aller dans un restaurant.
C'est pas un exploit non plus d'être un élu du peuple et d'être dans des grandes surfaces, si vous me permettez, ouais. Monsieur
Alors,
Nicolas.
Si je puis me permettre, il y en a beaucoup qui ne le font pas, croyez-moi.
Ah bon ? Mais c'est sympa de faire les courses dans les grandes surfaces. Moi, j'y étais encore samedi, j'adore.
Oui, et puis je vais vous dire, moi, tous les samedis, je fais mon marché. Mmh. Et j'adore ça.
Bah oui, c'est sympa.
Mais en revanche, autant un marché à Compiègne, il a été réglementé pour qu'il n'y ait pas trop de promiscuité. Quand vous allez dans une grande surface, je trouve qu'il y a trop de promiscuité par rapport, et vous avez moins de...
Mais les gens sont masqués.
Oui, mais dans un restaurant, lorsque vous laissez une table, ou deux tables, ou trois tables, bien sûr. Ma sœur est restauratrice dans l'Allier. L'Allier, vous l'avez dit juste au préalable, couvre-feu à 18h.
Exactement.
Les plats emportés qu'elle faisait le soir, elle ne peut plus les faire.
Ouais, ça, c'est
les
un problème.
Gens, à la sortie du boulot, ne vont pas venir à 17h30 quitter leur travail pour venir chercher leurs plats emportés. Donc c'est une manne financière qu'elle va perdre également dans un département comme l'Allier, qui n'est pas toujours facile en matière de restauration. Ben, nous, c'est pareil. Je trouve que j'aurais laissé les bars et les restaurants ouverts avec, certes, les gestes barrières, mais également l'espacement des tables. On aurait pu voir s'il y avait un résultat positif ou à nouveau négatif de la réouverture de ces bars et ces lieux de détente.
Ben merci beaucoup Nicolas, maire adjoint donc à Compiègne et qui est maire adjoint des Républicains. Nathalie est là, bonjour Nathalie.
Oui, bonjour.
Toujours
Pascal.
Sur ce sujet du reconfinement, hein, à Marseille notamment, vous êtes assistante maternelle, ouais, à Grenoble.
Vous avez utilisé un mot juste, je crois qu'ils sont tous en train de venir zinzin, effectivement. Bon. Surtout à Marseille, parce que finalement, chronologiquement, samedi, moi j'écoutais RTL depuis bonne heure le matin, et les Bouches-du-Rhône n'étaient encore pas sortis du chapeau dans les régions avec le couvre-feu à 18h, parce que justement, M. Muselier était vent debout pour pas que les Bouches-du-Rhône n'aient un couvre-feu à 18h. Donc ça n'a été, ils ne sont sortis du chapeau qu'à 17h à peu près, les Bouches-du-Rhône. Donc ils sont vent debout pour pas fermer à 18h, mais 24 heures après, l'ex-maire de Marseille veut carrément pas fermer à 18h, veut que tout ferme. Mais enfin, c'est incroyable, ils sont en train de devenir zinzin, quoi. C'est-à-dire que les politiques...
C'est le virus qui rend fou, c'est le livre de Bernard-Henri Lévy.
Bah, les politiques, on s'en prend à eux quand ils jouent les médecins. Les médecins, on s'en prend à eux, tous ces épidémiologistes, quand ils jouent les politiques. Mais on n'en sort pas, en fait. Enfin, finalement, ils disent tout et leur contraire, et même eux. Parce que vraiment, la position de René Muselier, samedi matin, c'était non, pas de 18h dans les Bouches-du-Rhône. Tout allait bien.
En plus, oui, mais bon, René Muselier, c'est pas non plus la mairie de Marseille.
Non, c'est la région.
Il est même d'une tendance inverse, puisqu'il est républicain, alors que c'est le PS qui est à la tête de Marseille.
Mais je trouve qu'ils perdent... Enfin, bah, je sais pas. Tout le monde est en train de s'affoler. Bon, effectivement, il y a 7 cas. Alors déjà, l'information, elle a été traitée. Au tout début, samedi soir, est sorti un cluster d'un regroupement familial de 42 personnes avec 21 cas positifs. Sur ces 21 cas positifs, il y en a que 7 issus du variant. Alors qu'au début, il y en avait 21. Bon, est-ce que... J'ai l'impression qu'ils ne se donnent plus le temps des recherches. Là, en ce moment, ils sont sur les analyses d'eau usée. J'ai l'impression que plus personne ne prend le temps d'analyser les choses. Enfin, tout est dans l'urgence. C'est des parapluies qu'ils ouvrent. Enfin, parce que la maire de Marseille, là, c'est un parapluie qu'elle déploie, en fait, en demandant le reconfinement, au cas où. Enfin, tout le monde se protège par des mesures extrêmes. Et je suis d'accord avec le maire qui vient de passer. Il faut... On s'en sortira pas, on va tuer tout ce qui est resté, quoi. Enfin...
Merci Nathalie. Je peux partager ce que vous dites pour évoquer tous les jours ce sujet. On peut aussi parler aujourd'hui des Français qui sont visiblement plus à l'écoute pour se faire vacciner. On peut évoquer également la suspension permanente du compte Twitter de Donald Trump. Qu'est-ce que vous pensez de Twitter notamment? Est-ce que vous trouvez que les journalistes parfois font trop référence à Twitter? Ça m'intéresse beaucoup, si on pouvait parler de Twitter. Alors, tout le monde n'a pas Twitter. Peut-être que vous-même, vous nous écoutez et vous nous dites « Moi, j'ai pas Twitter parce que vous n'êtes pas de la génération Twitter. » Et appelez-nous quand même, d'ailleurs, pour nous dire, quand vous entendez Twitter, comment vous réagissez. Ça m'intéresse. À tout de suite, 13h29.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Je suis malade.
Je vous avais dit qu'on était en déprime, mais c'est pas obligé quand même de nous mettre « Je suis malade ».
C'est pour essayer de vous faire sourire.
Ah non, mais franchement, on est lundi.
Ça démarre bien.
Non, mais on est malade.
La semaine
on
va
est
être
pas malade d'abord, nous. On n'est pas malade, Greg.
On sait pas, hein.
Non, mais...
Sauf la maladie d'amour.
Ah oui, non.
Quel romantique.
Mais oui.
Non mais elle est sublime cette chanson, mais c'est vrai qu'on est... Moi j'en ai l'impression de faire des émissions tous les jours la même, Laurent Tessier.
Bah justement, vous allez pouvoir nous appeler sur d'autres sujets qui vont vous vous rappeler d'anciens
quand
sujets.
Même, mais j'aimerais.
Oui, ça va être comme ça.
J'aimerais.
Plus d'un Français sur deux souhaite désormais se faire vacciner contre la Covid-19 selon un dernier sondage Harris Interactive. Nous sommes passés de 45 à 56%.
Pour la collectivité, je me ferai vacciner parce que si on est plusieurs à dire je me vaccine pas, on va jamais y arriver.
Les jeunes, on a beaucoup crié sur nous parce qu'on n'était pas responsables, etc. Alors que je pense qu'on est tout à fait prêts à se faire vacciner. Donc moi, en tout cas, personnellement, je l'attends.
Alors avez-vous changé d'avis? Comptez-vous vous faire vacciner? 32-10. Comprenez-vous la suspension permanente du compte Twitter de Donald Trump? Le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, a critiqué la décision du réseau social de fermer le compte du président américain. Ce n'est pas aux géants d'Internet de réguler l'espace numérique. Arnold Schwarzenegger n'a pas mâché ses mots contre Donald Trump dans une vidéo.
Le président Trump est un dirigeant raté qui restera dans l'histoire comme le pire des présidents. Heureusement, très bientôt, il n'aura pas plus d'intérêt qu'un vieux tweet.
Cette censure de Donald Trump sur Twitter est-elle pour vous justifier? Le réseau social est-il dans son rôle? 32-10. Et vous pourrez rendre hommage à Georges Pernoud, le présentateur de Thalassa pendant près de 40 ans, de 1975 à 2017. Il nous a quittés à l'âge de 73 ans. Il a transmis aux Français son amour de la mer et des paysages, a écrit Emmanuel Macron.
Et on pourra lui rendre hommage. Plus d'un Français sur deux, vous l'avez dit, souhaite désormais se faire vacciner. Ça, c'est intéressant parce que ça augmente. C'est-à-dire que la pédagogie peut fonctionner. On est avec Maxime qui habite dans le Val d'Oise, qui est restaurateur. Bonjour Maxime, est-ce que vous allez vous faire vacciner? Vous avez 32 ans d'abord, vous n'êtes pas...
C'est ça.
Pour vous, ce n'est pas tout de suite, a priori, ce n'est pas avant 6 mois.
Oui, enfin, même un peu plus, je pense, hein, vu la vitesse en France, malheureusement. Moi, je ne suis pas contre la vaccination en globalité, hein, je suis pour la vaccination, mais vaccination pour la Covid-19, j'émets des réserves et je n'ai pas envie de me faire vacciner à l'heure actuelle, car voilà, je considère que des vaccins obligatoires en France, ils sont présents pour des maladies qui sont hautement contagieuses, hautement mortelles, comme les pneumocoques, les rougeoles, les diphtéries, tétanos, toutes les maladies graves qui touchent toutes les tranches d'âge. Le virus du Covid-19, le SARS-CoV-2, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire qu'il soit hautement mortel. On n'est pas sur des taux de mortalité qui crèvent le plafond. On a beaucoup de contagions, certes, beaucoup d'asymptomatiques également. Les chiffres qu'on a malheureusement en France, faut pas oublier que les gens se font tester une fois par semaine, voire plusieurs fois. Et certes, c'est une petite partie, les chiffres sont gonflés. On ne parle que des cas positifs, on ne parle pas des personnes atteintes activement du virus Covid. Donc, je pense qu'il y a aussi malgré tout une culture de la mise en pression de la population, de la rendre la population responsable de la crise actuelle, comme l'avait mis cet été le préfet de Paris en disant que si on était malade, c'est notre faute. Que on parle tout le temps des risques de contamination, mais on ne fait pas, je pense, suffisamment de prévention sur les gestes barrières essentiels, c'est-à-dire le lavage de mains. Faut quand même se rappeler quand même qu'en France, quand il y a une crise
crise de foie.
Non, de gastroentérite.
Gastroentérite en France. Non mais j'ai compris ce que vous disiez, j'ai pas voulu vous interrompre, mais vous incarnez la difficulté pour ce vaccin. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il est peu mortel. Et les gens comme vous, vous avez 32 ans, a priori, vous ne risquez pas, si vous attrapez la maladie, si vous la contractez, a priori, vous statistiquement, vous n'allez pas aller en réa, statistiquement, vous n'allez pas aller à l'hôpital, et statistiquement, vous n'allez pas mourir. Ça, c'est les stats. Bon. Mais ce vaccin, il n'est pas fait pour ça. Et c'est pour ça que c'est compliqué. D'habitude, on a un vaccin pour se protéger soi. C'est-à-dire que si le vaccin, c'était Ebola, avec un risque XXL de mourir, croyez-moi, tout le monde demanderait de se faire vacciner, et vite, parce que tout le monde comprendrait que si tu contractes la maladie, t'es mort. Bon. Mais on se vaccine pour les autres. On se vaccine pour ne pas transmettre, pour avoir une immunité collective. Donc effectivement, votre raisonnement, il est juste, mais il est un peu, égocentré.
On est peut-être là je parle de à mon sens de sur mon cas personnel que je ne souhaite pas me faire vacciner, mais il faut aussi se dire on parle de
il y a un côté civisme là-dedans. Alors ça m'ennuie d'en parler parce que je trouve que chacun doit faire ce qu'il veut, c'est les libertés de chacun et bien évidemment, on n'est pas là pour donner des leçons, tout ça c'est vrai. Mais effectivement, si tout le monde raisonne comme vous, ben personne se fait vacciner. C'est ça qui est ennuyeux.
Si tout le monde raisonnait comme moi, on se laverait les mains une vingtaine de fois par jour.
Oui, mais ça suffit pas.
D'abord, on porterait le masque sans l'avoir en dessous du nez.
Mais j'entends, Maxime.
Quand on est sur un plateau télé, pourquoi personne ne porte de masque?
Mais pour une raison simple, c'est que les gestes barrières sont respectés.
Les gestes barrières, vous êtes dans un espace clos?
On est à plus d'un mètre cinquante.
Les plateaux sont ventilés?
On est à plus d'1m50 et les plateaux sont ventilés. C'est pour ça.
Très bien.
Si bête que ça.
Par contre, quelle image vous donnez? Le masque n'est pas forcément nécessaire.
Je comprends pas votre question. Attendez, Maxime. Vous me dites quelle image vous donnez. Je donne l'image de quelqu'un qui respecte au millimètre près le protocole, puisque je vous dis que nous sommes espacés suffisamment loin pour que précisément le masque ne soit pas obligatoire.
Alors pourquoi dans la rue durant octobre on nous oblige à porter le masque dans la rue on est dans un espace ventilé, nous sommes pas
beaucoup de gens disent que le masque dans la rue n'a pas d'utilité, beaucoup de médecins le disent, après le gouvernement posez-lui la question au gouvernement.
Il est obligatoire, nous sommes sous le risque de la contravention.
Mais bien sûr, mais quel est le rapport avec les journalistes sur les plateaux télé?
Parce que vous avez comme une visibilité. C'est vous quand même qui donnez aussi le tempo par rapport au comportement des gens.
Nous donnons le tempo, comme vous dites. Nous respectons le protocole à la lettre près. Nous donnons l'exemple, puisque précisément... je vous répète que l'image, elle est excellente, puisqu'on respecte la distance.
Alors pourquoi, notamment quand vous avez votre émission sur l'heure des pros, vous avez certains de vos intervenants qui, eux, sont avec le masque.
Ce qu'ils veulent, monsieur Maxime.
Mais on est bien d'accord que malgré tout, lorsque vous avez un certain devoir, entre guillemets...
Devoir de ce point de vue-là, monsieur Maxime. J'ai le devoir de respecter le protocole. Et le protocole, je le respecte.
Quand on est un personnage public, vous êtes quand même d'accord avec moi.
Mais je le respecte, je vous dis.
Image, même au-delà. Au-delà de la simple respect des
je respecte
des
protocoles, le protocole. Enfin, je ne peux pas vous dire autre chose. Je ne suis pas en faute sur le protocole. Il est 13h40, on marque une page de pub. Et là, c'est un dialogue de sourds parce qu'on ne va pas s'entendre. 13h40, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
On va terminer avec Maxime, qui est restaurateur. Et Maxime, cette affaire de masque, par exemple, souvent, on nous dit même à RTL, là, par exemple, je suis tout seul dans ce studio. Et certaines personnes disent, pourquoi vous n'avez pas de masque? C'est la même chose, je suis tout seul. Alors, je veux bien le porter. Alors, vous pourriez me dire, au nom d'un symbole, je ne sais quoi, vous devriez avoir tout le temps le masque. Bon, je ne sais pas de quel symbole ce serait.
Dans le cas auquel vous êtes actuellement, je suis d'accord, le masque ne sert à rien. Comme on l'a dit, quand on est seul, il n'y a pas d'utilité, parce que le masque protège les autres, pas nous-mêmes. Par contre, quand vous dites que vous respectez à la lettre les protocoles, ça,
on a intérêt, parce qu'autrement...
On est bien d'accord que certaines professions qui sont interdites à l'heure actuelle, comme la restauration, qui est mon cas, nous avons respecté les protocoles, nous avons mis
en place... Mais je suis à 100% d'accord avec vous, et moi je suis à 100% pour que les restos rouvrent.
Je sais, je vous écoute assez souvent pour savoir ça.
Donc, je suis d'accord avec vous.
Et le problème, c'est que je ne sais pas... Pourquoi on a mis au pilori certaines professions?
Parce que on considère plein de choses. En fait, on considère que vous n'êtes pas tellement essentiel. On considère que vous allez sans doute pas, trop crier. Et on considère que les restaurants, ça concerne pas tous les Français. Donc il y a une part de cynisme là-dedans, bien évidemment. Mais les métros, on peut pas les fermer, les transports en commun non plus, les trains non plus, les avions non plus. Donc nous sommes d'accord, il y a une forme d'incohérence. Maxime, je vous laisse parce que évidemment la parole doit tourner. Et Philippe est avec nous, Philippe qui habite Nancy, et Marc aussi qui est là. Marc est enseignant. Alors peut-être Marc d'abord d'ailleurs, parce que il est un peu sur la ligne de Maxime, donc ça va être intéressant de prolonger son rapport à la vaccination. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Merci d'être avec nous, vous êtes enseignant.
Je vous en prie. Oui.
Bon, vous allez vous faire vacciner ? Vous êtes au contact des élèves ?
Alors, oui, non, mais je ne serai pas vacciné. Je ne suis pas enseignant dans l'éducation nationale. Je suis enseignant particulier. Mais je mets toujours un masque avec mes élèves. Alors, je ne me serai pas vacciné tout simplement parce que j'estime que le bénéfice... Vous savez, dans un traitement médical, il faut toujours estimer le bénéfice sur risque. Et pour moi, le risque n'est pas assez important pour que je me fasse vacciner.
Pour vous ?
Oui. Et alors, j'anticipe votre question parce que vous allez me dire qu'effectivement, après qu'on se soit confiné pour les autres, on va se vacciner pour les autres. Ben, non, parce que vous avez un vaccin qui est efficace à 95%. Donc on ne se vaccine pas pour les autres, on se vaccine pour soi. Les gens qui ne sont pas vaccinés ne vont pas contaminer les vaccinés, puisque les vaccinés sont contaminés à plus de, sont protégés à plus de 95%. Donc cet argument ne tient pas.
C'est un peu spécieux votre argument, c'est un peu spécieux. Intellectuellement.
Non.
Mais si tout le monde fait comme vous, surtout personne ne se vaccine.
Mais non, mais quand vous avez un vaccin qui marche, par exemple, qui est efficace à 70%, vous avez des gens qui sont vaccinés et qui ne sont pas protégés parce qu'ils sont dans les 30%, ils n'ont pas de chance, ils sont dans les 30% où ça ne marche pas. Bon, là, on peut entendre cet argument que, effectivement, s'ils côtoient des gens qui ne sont pas vaccinés, ils risquent d'être contaminés. Mais avec un vaccin qui marche à 96 ou 97%, je ne sais plus exactement les chiffres, bah, à partir du moment où vous vous vaccinez, vous êtes protégé.
Non, mais j'entends bien, mais quel est le fond de l'argumentation, qui m'intéresse, c'est toujours de comprendre pourquoi vous ne voulez pas vous faire vacciner. Parce que vous avez peur ?
Peur, c'est beaucoup dire. Mais enfin, moi, je suis
assez étonné. Ça veut dire quoi, beaucoup d'heures ?
Je suis assez étonné sur ce coup-là de votre soumission au pouvoir, quand on sait que vous êtes quand même suffisamment impertinent et parfois vous sortez un peu de vos gonds. Mais écoutez, vous avez quand même un vaccin ici qui va modifier vos cellules pour que vos propres cellules, fabriquent une protéine de virus. Très honnêtement, je suis assez au courant de maladies auto-immunes parce que j'en souffre. Je n'ai pas besoin que mes cellules produisent une protéine étrangère et a fortiori une protéine qui fait partie d'un virus.
Mais les médecins ne disent pas ce que vous dites. C'est ça qui m'ennuie. Quand vous dites médecins, de soumission, moi, je n'ai pas de soumission particulière médecins, à personne.
Il y a un brillant professeur qui est venu nous dire dans les années 80 que le nuage de Tchernobyl était un grand médecin.
Non, mais... Marc, on n'en sort pas. Aujourd'hui...
Les médecins ont toujours raison.
Non, vous avez raison. Alors, vous avez raison, d'accord, il n'y a pas que les médecins. Mais par exemple, il y a 8 millions de gens, peut-être, ou 9 millions de gens, maintenant, qui ont été vaccinés la semaine dernière, on était à 6 dans le monde. Bon, il n'y a aucun problème.
Ah, mais je ne vous dis pas qu'il va y avoir des problèmes demain. Long terme, on n'a pas suffisamment de recul.
Mais lesquels, puisqu'on te dit qu'il n'y en a pas, qui peuvent arriver ? Moi, là, c'est pour ça que il y a un moment, j'ai aucune soumission, mais je me fais convaincre, tout simplement. La pub est restée avec nous, Marc. Restez avec nous, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Donc Marc de Belfort ne se fait pas vacciner, il craint, disons-le, vous avez un peu peur. Et pourquoi pas d'ailleurs, hein, moi je ne conteste pas ça, hein, j'essaye de comprendre.
Ce n'est pas vraiment de la crainte, c'est de la méfiance.
Bah, c'est pas vrai.
C'est aussi de la défiance vis-à-vis de M. Véran, là, qui semble avoir avalé un dictateur depuis 9 mois. Moi, je trouve que le gouvernement, là, je ne le supporte plus. Donc, si vous voulez, il y a peut-être aussi une forme de rejet de ma part, parce que ce gouvernement me sort par les yeux, hein, pour tout vous dire. Je pense, et je ne suis pas le seul, parce que je discute avec beaucoup de gens pour lesquels c'est la même chose. Et puis, concernant le virus, ce n'est pas de la crainte, mais c'est une certaine méfiance. Et puis, je vous dis, avec un vaccin qui protège à 95%, on n'a pas besoin de se faire vacciner pour protéger les autres. Cet argument, je ne sais pas qui a sorti cet argument scientifique. Enfin, ça ne tient pas. C'est pas possible. Il suffit de réfléchir deux minutes.
Non, parce que si tout le monde raisonne comme vous, personne ne se fait vacciner, pardonnez-moi. C'est pour ça que...
Parce que les gens qui ont peur et qui sont en situation, qui sont fragiles ou qui ont des craintes... Ou qui sont...
Oui, mais là... Enfin, comment dire, Marc, un grand nombre ne se fait pas vacciner, l'immunité collective n'arrive pas et la maladie continue de circuler, pardonnez-moi. Si tout le monde est vacciné, la maladie s'arrête.
Oui. Vous avez des pays africains où la population...
Non, non, mais répondez à ça. Non, non, votre argument n'est pas bon. Intellectuellement, ça tient pas, votre truc. S'il y a que 10% de gens fragiles, par exemple, qui se font vacciner, que les gens, par exemple, qui vont dans les hôpitaux qui se font vacciner, si avec cela, la maladie continue de vivre, alors évidemment, les hôpitaux sont peut-être moins débordés, mais il y a toujours la maladie, l'immunité collective n'arrive pas.
Alors non, je comprends pas ce que vous dites, en fait.
Ah bon?
Si les gens qui sont en situation d'être en réa se font vacciner, il n'y a plus personne en réa. Justement, la maladie va continuer chez les jeunes. Vous avez des populations en Afrique où les gens sont jeunes, le virus est là, mais ils ne sont pas vaccinés. Et il n'y a pas d'hécatombe parce que la population est jeune. Donc quand le virus circule chez les jeunes, c'est même plutôt mieux. Parce que ça va, effectivement, on va arriver à une sorte d'immunité collective. Je comprends pas cet argument. Hein.
Bon, merci en tout cas, Marc. Et puis, c'est bien d'échanger, même si on n'est pas d'accord. Et c'est le principe de nos émissions. Alors, avant de reparler du vaccin dans la deuxième partie entre 14h et 14h30, il y a deux petits sujets qu'on va évoquer. Il y a Trump et Georges Pernoud. Alors d'abord Trump avec Guillaume qui est étudiant en psycho. La question c'est est-ce que Twitter est le nouveau maître du monde ? Est-ce que Twitter a raison de suspendre le compte de Donald Trump ? Bonjour Guillaume.
Oui, bonjour Pascal Prode. Alors je répondrai en deux temps. Premièrement, techniquement oui, vu que c'est une société privée, elle a le droit de faire ce qu'elle veut dans sa société. Mais deuxièmement, on parle pas de n'importe qui, on parle pas d'une personne normale, on parle vraiment du président des États-Unis, et lui retirer une voix aussi puissante que Twitter, qui a un monopole un peu comme Facebook, tous les deux ont un monopole complet sur la parole, parce qu'ils tiennent aussi Snapchat, Instagram, etc. Et maintenant qu'il est banni de tout cela, de tous les GAFAM, en fait, il peut que s'exprimer par des voix qui sont beaucoup moins écoutées qu'à une certaine époque. Donc oui, c'est retirer énormément de voix au président des États-Unis, et pour moi, oui, c'est assez grave, oui.
Bon, en même temps, il n'y a pas grand-chose à faire, puisque, comme vous l'avez dit, c'est une société privée. Mais ça montre un état d'esprit. Mais c'est vrai que ça va plus généralement. Les médias, aujourd'hui, ont parfois le rôle de censeur, parfois le rôle de juge. Et aux États-Unis, par exemple, le dernier discours de Trump devant la Maison-Blanche n'a pas été retransmis par, je crois, CNN.
C'est pour ça que je dirais que parce qu'on n'arrête pas de parler, ils ont tenté un coup d'État. Mais en fait, le véritable coup d'État en ce moment, ça ne vient pas des partis d'entre eux ou de Trump lui-même, c'est plutôt au final des GAFA. C'est eux qui font un coup d'État sur la parole des gens qui sont pro-Trump, qui sont considérés comme patriotes, conservateurs, etc., etc. Maintenant, ce sont eux qui dirigent tout. Maintenant, parce qu'il n'y a presque pas d'alternative, excusez-moi. Il reste quoi? Parler vient d'être justement aujourd'hui supprimé, qu'il y a une alternative à Twitter, qui est supprimée par Amazon. Il reste Gab, qui est un alternative au nôtre à Twitter, qui est le dernier qui reste encore, mais autrement, plein de gens ont vu leurs comptes, des centaines de milliers de comptes viennent d'être supprimés de Twitter, et c'est pas fini, quoi, donc...
Je comprends, Guillaume. Merci pour votre témoignage. Oui. Comme avant 14h, je voulais qu'on parle de Georges Pernoud. C'est Jean-Luc de Nantes qui va évoquer la mémoire et cette émission qui a bercé parfois notre jeunesse. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Pascal.
Vous regardiez Thalassa?
Ah oui, bien sûr. Ah oui, ouais. C'était l'émission du vendredi soir. On regardait ça avec les enfants. C'était une émission extrêmement enrichissante et éducative. C'était en prime time, comme on dit. J'ai beaucoup de regrets pour le. Je dirais pas l'arrêt de cette émission parce qu'il semblerait qu'elle soit programmée maintenant le dimanche à 14h, enfin, d'après ce que j'ai entendu dire. Mais c'était le vendredi soir, c'était extraordinaire. C'était des émissions comme Ushuaïa, comme les émissions de Philippe de Dieu le veut. On apprenait beaucoup de choses, c'était pas du tout people, c'était vraiment c'était des émissions éducatrices et un grand merci à Georges Pernoud et puis beaucoup de regrets pour ce... Voilà.
Qu'est-ce que vous appréciez dans sa présentation ?
Son naturel, sa sincérité, son naturel, je dirais. Il était hyper naturel, il était... Il n'y avait pas de blabla, il n'y avait pas de chichi, il n'y avait pas de... C'était pas people, c'était... Et puis son équipe, hein, il avait une équipe extrêmement pointue sur les sujets. On avait des reportages formidables, on avait... c'était sain, c'était l'émission du vendredi soir. On regardait ça avec les enfants et ils apprenaient beaucoup, voilà.
Présenté le 4 juin 1975 par le caméraman Georges Pernoud, qui a vécu une révélation après avoir couvert une course à la voile.
Exact.
Vous vous rendez compte, 4 juin 1975.
Énorme.
Donc, et à partir du 4 janvier 80, voilà. Elle est devenue hebdomadaire en deuxième partie de soirée.
Oui.
Et effectivement, aujourd'hui, elle est...
Elle n'est pas remplacée.
Oui, la première, à la rentrée de 2019, Thalassa perd sa case mensuelle du lundi soir. Et la chaîne annonce un nouveau programme qui serait réimaginé le dimanche après-midi.
Oui, c'est ce que j'ai entendu dire. Mmh. Mais elle n'a pas été remplacée. Et c'est dommage, c'est le service public quand même, Pascal.
C'est vrai. Ben merci en tout cas Jean-Luc d'avoir rendu hommage à Georges Pernoud. Merci à vous. Le flash de Olivier Bois dans une seconde. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Faut-il reconfiner Marseille ? C'est Antoine, j'ai pas dit Saint-Antoine. C'est un quartier de Marseille important. C'est Antoine qui est avec nous. Antoine qui habite Lens, faut-il reconfiner Marseille ?
D'après moi, pas du tout, Pascal, pas du tout.
Eh bien, vous nous le direz pourquoi, Olivier Bois, le flash.
Et à la une, donc toujours effectivement, ce variant anglais du Covid qui inquiète les autorités sanitaires. Un Vaucluse a été cluster a été identifié à Marseille, on y revient dans un instant. Deux cas ont été identifiés également à Lille, des personnels soignants et une grande campagne de tests est lancée à Roubaix. Objectif, tester 30 000 personnes ces prochains jours. Chaque cas positif sera ensuite étudié pour voir s'il est donc le variant anglais du coronavirus plus contagieux. 50 000 vaccins Moderna sont livrés aujourd'hui en France, plus facile à stocker à moins 20 degrés et non pas à moins 70 comme le Pfizer. Ce sont les régions du Grand Est, l'Auvergne et la région PACA qui sont livrées en priorité. Angela Merkel juge problématique le fait que les réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook, aient suspendu les comptes de Donald Trump après les émeutes du Capitole. Question de principe en substance pour la chancelière allemande sur le fait que ce soit une entreprise privée qui décide et non pas une décision, par exemple, législative. Un incendie volontaire à Nantes a détruit en partie un bâtiment de l'université. Acte revendiqué, des tags étaient sur les murs contre la tenue des examens en présentiel. La météo, le temps de demain, gris et pluvieux à peu près partout. De la neige possible dans l'est, dans le centre autour d'Aurillac. Il fera beau. Des Pyrénées à la Méditerranée et sur les Alpes, température moins 3 degrés à Aurillac, la minimale. Entre 0 et 5 degrés partout ailleurs, y compris dans le sud. C'est dans un quart nord-ouest qu'il fera le plus doux entre 7 et 10 degrés. Le quintet à Vincennes, à l'instant l'arrivée provisoire. 12, 13, 10, 9 et As. On confirme tout ça tout à l'heure à 15h.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et donc entre 14h et 14h30, on continue cette discussion, Laurent Tessier, avec le reconfinement de Marseille.
Au moins 8 cas liés au variant anglais du Covid-19 ont été identifiés à Marseille. Le maire de la ville, Benoît Payan, était l'invité de Vincent Parisot hier dans RTL Soir.
C'est en train, depuis quelques jours, de remonter de manière inquiétante. Il faut désormais vacciner la population le plus vite possible. Et nous, à Marseille, on est prêts.
Sur ce variant britannique, le professeur Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique, a averti ce matin.
C'est presque une nouvelle épidémie dans l'épidémie.
Alors, quelles mesures faut-il prendre dans la cité phocéenne ? Michèle Rubirola, première adjointe au maire de Marseille, a lancé sa proposition. Elle était l'invitée de nos confrères de BFM.
Pourquoi pas un reconfinement pour protéger les Marseillaises et les Marseillais, mais un réel reconfinement pour que ce virus s'arrête de circuler. Parce que ce qu'il faut, c'est casser la chaîne de transmission.
Le couvre-feu a été avancé hier à 18h dans l'ensemble des Bouches-du-Rhône. 23 départements, tous sont concernés. Et pour Michèle Rubirola, ce n'est pas la meilleure solution pour Marseille.
Moi, je pense qu'un couvre-feu 18h-20h n'apportera pas forcément quelque chose de plus. Parce que je pense que 18h ou 20h, c'est pas forcément là où on se contamine. Là où on se contamine, c'est dans les transports en commun, c'est dans les restaurations collectives, c'est sur nos lieux de travail. Il n'y a pas de preuve scientifique qu'un couvre-feu à 18h améliore la situation sanitaire.
Un avis qui ne reflète pas la position de la municipalité, a assuré le service de communication de la mairie. Un reconfinement à Marseille n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant pour la préfecture des Bouches-du-Rhône. Alors, faut-il prendre cette décision ? Qu'en pensent certains habitants rencontrés par notre correspondant Étienne Baudu ?
Reconfinement. Parce que moi, j'ai peur, j'ai 75 ans. On n'a pas fait le nécessaire. Et maintenant, il nous emboucane.
Je pense que le couvre-feu de 18h, c'est déjà un premier geste, un premier effort. Je pense que c'est moins extrême qu'un confinement total.
Faut-il reconfiner tout le pays, justement ? Un collectif de médecins avertit dans une tribune au Monde ce matin. Il est à craindre que l'aggravation de l'actuelle vague impose mi-janvier un nouveau confinement. Et que disait ce matin Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement ?
On
a montré depuis le début de cette crise qu'on avait un suivi au jour le jour et qu'on prenait toujours les mesures nécessaires à la protection des Français. À ce stade, il n'y a pas de reconfinement prévu.
Pas de reconfinement à ce stade, mesures nécessaires, bon. Mais le 22 octobre, 6 jours avant l'annonce du second confinement, quels éléments de langage étaient donnés par le porte-parole du gouvernement ?
À ce stade, il n'y a pas de reconfinement prévu du pays. Et qu'on prendra toujours les mesures nécessaires pour protéger la santé des Français.
Ouais, affaire à suivre donc dans les jours à venir. Avec nous, le professeur Yves Buisson, président du groupe Covid-19 à l'Académie nationale de médecine.
Et je le salue, monsieur Buisson. Bonjour.
Bonjour.
Et vous allez pouvoir évidemment dialoguer, répondre aux auditeurs, comme à Antoine par exemple, qui est donc à Lens, et qui pense, Antoine, que c'est inutile. Antoine, pourquoi ?
Bonjour Pascal, d'abord bravo pour votre émission et puis c'est bien que les auditeurs puissent s'exprimer sur une chaîne nationale. Alors mon avis qui n'engage que moi bien évidemment, mais le confinement ça pourrait être une bonne chose parce que ça va ralentir peut-être la progression de l'épidémie, mais en aucun cas ça l'enraye. On a bien vu le premier confinement durant le mois de mars et puis le second. Là on est déjà en train de nous parler d'un troisième. À partir du moment où on confine, on peut se dire que si tout le monde reste chez soi et qu'il n'y a pas de circulation d'un point de la ville à l'autre, d'une personne d'une famille à l'autre, ça peut éventuellement se concevoir. Mais à partir du moment où on laisse des accès, le confinement entre guillemets ne sert à rien. Et puis bon, tout comme vous, je suis consommateur. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des choses qu'on comprend pas, et c'est pour ça que la population, elle peut avoir de la difficulté à adhérer à une idée à partir du moment où on la comprend pas. Alors je ne vais pas vous lancer là-dessus parce que je sais que vous êtes pour la réouverture des restaurants, hein. Mais pourquoi par exemple aujourd'hui on estime que les restaurants sont un point sensible de danger de contamination alors que les trains ne le sont pas, que quand on fait les courses le samedi après-midi et qu'on voit les gens agglutinés.
Non mais on sait bien que les trains le sont, simplement c'est plus facile de fermer les restaurants que les trains parce que les trains c'est vital et les restaurants on peut s'en passer, c'est ça sans doute le raisonnement. Mais monsieur Buisson vous répond point par point sur ce que vous venez de dire.
Juste une dernière chose monsieur Pro, puis après je laisse ma place à d'autres auditeurs. Moi, je suis à la limite pour, vous savez, responsabiliser chacun sur le port du masque, hein, parce que des membres de ma famille ont été touchés, j'ai perdu des amis proches. Et je pense que, par exemple, quand on voit quelqu'un, que ce soit... Alors pas dans la rue parce que c'est vrai que c'est toléré, mais par exemple dans un magasin, dans une enceinte fermée, etc., avec des gens qui ne portent pas correctement le masque sous le nez, sous le menton, etc. Bon, on va pas faire la guerre à toute la population, mais est-ce que
Monsieur Buisson vous répond, Antoine.
Oui, sur ce dernier point, je suis entièrement d'accord. Il faut que les mesures individuelles prennent le pas sur les mesures collectives, parce que les mesures collectives, c'est le tout ou rien. Ou bien on fait un confinement à la chinoise. Hein, c'est-à-dire chacun chez soi avec des policiers devant la porte pour vérifier que vous ne sortez pas, ou bien on fait des confinements allégés, comme celui que nous avons connu, que nous connaissons encore, et qui laisse effectivement passer un certain nombre de possibilités de transmission du virus. Alors, on va discuter éternellement. Madame Rubirola dit les transports en commun à Marseille, c'est un lieu de confinement. Je ne sais pas sur quelles données elle appuie cette affirmation. Si c'est le cas, effectivement, il faut arrêter les transports en commun et que les gens marchent, se déplacent à pied ou à trottinette. Mais je crois que chacun a ses solutions. En fait, les bonnes solutions sont celles qui reposent sur des preuves scientifiques qui montrent que, voilà, la transmission dans telle ville, à tel moment de l'année, elle repose sur telle pratique. Eh bien, on va lutter contre cette pratique. Alors, sinon, c'est effectivement, on est obligé d'être trop large dans les décisions. Et du coup, tout le monde va en pâtir, c'est les restaurateurs, c'est les spectacles, c'est exactement toute la vie économique du pays.
Une page de publicité, nous revenons.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et donc à 14h10, on est cette fois avec Pascal, toujours sur ce sujet de Marseille, et toujours évidemment avec le professeur Yves Buisson, président du groupe Covid-19, qui dialogue avec les auditeurs. Pascal, votre sentiment, est-ce que faut reconfiner Marseille ?
Bonjour Pascal.
Bonjour.
Non. Enfin, pour moi, j'ai déjà eu l'occasion de parler avec vous. Bon, sur la lenteur de la vaccination, etc., sur laquelle je suis très favorable. Non, reconfiné. Enfin, si on écoute, alors là, on est purement dans ce que nous a annoncé Neil Ferguson au départ. Vous savez, avec le nombre de lui, il prévoyait six confinements. Hein. Neil Ferguson, je vous rappelle que c'est celui qui a qui a dit à Madame Merkel et qui a dit à Emmanuel Macron, voilà, qu'il y aurait 200 000 morts en France, autant au Royaume-Uni, 2 millions de morts aux États-Unis. Enfin, voilà, hein, ce brave homme donc de l'Imperial College of London, hein, ce statisticien qui a appliqué ça pour le Covid, et puis on voit toutes ces prévisions. Donc il a annoncé 6 confinements. Voilà, alors moi je suis pas du tout favorable. En revanche, alors je suis peut-être un petit peu brouillon, mais Pascal, je voudrais revenir, parce que vous parliez tout à l'heure, j'ai trouvé ça très judicieux, de sémantique avec votre confrère là, sur le mutant au lieu de le variant au lieu du mutant. Mais sur la pédagogie aussi, on pourrait parler de propagande, parce que depuis quelque temps, on déploie quand même beaucoup de moyens pour que les gens changent d'avis. Hein, vous l'admettrez quand même que, bon, on nous a parlé de certains professeurs, médecins, gens du show business, qui se font vacciner, donc braves gens.
Si c'est pour la bonne cause, ça peut s'entendre, mais de faire un peu de pédagogie. Si les gens ont peur de se faire vacciner, si ce vaccin est 100%...
Encore une fois, c'est pas un vaccin, et puis vous avez le professeur à côté de vous. Hein, on souhaite obtenir une immunité, ce qui est différent, hein, une immunité artificielle, mais à la base, c'est, je suis désolé, quoi, c'est de la thérapie transgénique.
Bon, Monsieur Buisson vous répond. Donc, tiens, ça c'est intéressant. Oui. Monsieur Buisson, répondez précisément, essayez de convaincre nos auditeurs qu'il faut se faire vacciner.
Oui, là j'ai entendu un certain nombre de propos qui sont scientifiquement sans valeur. Donc, oui, la vaccination, d'abord c'est un bienfait pour l'humanité, c'est éprouvé et reprouvé plusieurs fois. La vaccination dans son ensemble. La vaccination contre la Covid-19, c'est vrai qu'on a été très vite, parce que les scientifiques ont fait vraiment un exploit en mettant au service l'immunisation contre le SARS-CoV-2, les moyens, la technologie de l'ARN messager. Cette technologie était connue, était travaillée depuis une vingtaine d'années, et là, les scientifiques ont eu l'occasion extraordinaire de pouvoir adapter cette technologie au coronavirus de la Covid-19, avec des résultats qui sont époustouflants. Je suis un scientifique, je suis un pasteurien, et je tiens à dire que ces résultats dans toute la communauté scientifique sont extraordinaires. Ça permet de vraiment de franchir une étape dans l'histoire des vaccins. En bien, vraiment en bien, en efficacité et en innocuité. On est vraiment devant quelque chose, une découverte que je n'hésite pas à qualifier de prodigieuse. C'est la raison pour laquelle il faut se faire vacciner. Pour revenir à Marseille, on a dit vivement qu'on se fasse vacciner pour arrêter cette épidémie. Bien sûr, mais ça demandera des mois. Pour arrêter ce qui se passe à Marseille, c'est pas le vaccin qui va y arriver, puisqu'il faut des délais très importants. D'abord, il faut qu'on vaccine un grand nombre de personnes, et puis le temps d'établir une immunité collective, ça demande, en France, d'une façon générale, il nous faut plus de 6 mois pour y arriver. Donc, pour lutter contre ce qui se passe à Marseille, tout repose sur les moyens classiques, hein, c'est-à-dire le port du masque, la distanciation, l'hygiène des mains, etc. Hein, les mesures qui sont bien connues et qui sont tout aussi efficaces contre le variant britannique, dont il n'est pas sûr que ce soit lui qui soit responsable actuellement de la situation marseillaise, que contre le virus qui prévalait jusqu'à présent.
Oui, mais alors quand vous dites que, en l'occurrence, il ne faut pas lui faire le reproche parce que ce n'est pas un scientifique, Pascal disait des choses fausses sur le plan médical, hein, c'est ce que vous avez dit, ou sur le plan scientifique. Précisément, qu'est-ce qu'il a dit qui est faux, par exemple?
Il a parlé de thérapie génique.
Et c'est pas le cas.
Ah non, pas du tout.
Oui. Mais alors pourquoi effectivement il y a ces mots-là dans l'opinion publique? Pascal, par exemple, pourquoi vous parlez de thérapie génique alors que c'est faux?
Mais c'est parce que c'est de la thérapie génique qu'on le veut.
Mais Monsieur Buisson, il est président du Covid-19 à l'Académie nationale de médecine. Il sait de quoi il parle. Il vous dit que c'est pas vrai. Pourquoi vous croyez le contraire? C'est quoi la thérapie génique?
Mais c'est bien la transmission au lieu de transmettre, d'inoculer, pardon, un antigène pour produire des anticorps, d'accord, un antigène inactif du virus pour obtenir des anticorps,
c'est bien l'ARN messager qu'on transmet. Et le risque qu'on puisse avoir, c'est que cet ARN messager se transforme en ADN. Non, est-ce que je dis une bêtise?
Alors, il vous répond, monsieur.
Une bêtise que je dis, professeur.
Non, ce n'est pas une bêtise, c'est une bonne question. Si. Mais je vais vous donner la réponse à cette question. La thérapie génique, d'abord, ce n'est pas du tout cela. Ça consiste à modifier des gènes dans notre génome. À remplacer un gène défectueux ou un gène qui induit une maladie par le bon gène. Ça, c'est de la thérapie génique. On soigne au niveau génétique. C'est-à-dire qu'on travaille sur l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, l'ADN, d'accord ? C'est ce qui constitue nos chromosomes.
Je suis à poil perdu, si tout le monde suit, ça bon, va, mais moi je suis à poil perdu, monsieur Buisson.
Non, mais ça, c'est la thérapie génique. Bon, maintenant, là, revenons à l'ARN messager. L'ARN, c'est un petit bout de génome qui n'est pas de l'ADN, qui va, une fois dans notre cellule, il va faire fabriquer par notre cellule, il va faire fabriquer la protéine virale contre laquelle on veut s'immuniser. Et une fois qu'il aura fait ce travail, qui va durer que quelques minutes, cet ARN messager, il est détruit. C'est très fragile, l'ARN messager. C'est pour ça qu'on est obligé de le conserver à une température extraordinaire, moins 80. C'est parce que c'est extrêmement fragile. Et une fois qu'il est dans nos cellules et qu'il a fait son boulot, c'est-à-dire qu'il a appris à notre cellule à fabriquer cet antigène viral, la protéine S du virus, il est tout de suite détruit. Il est réduit en petits morceaux, il est détruit dans notre cellule. C'est-à-dire qu'il est absolument incapable de s'intégrer. Et même s'il n'était pas détruit, il ne pourrait pas s'intégrer au génome de notre cellule. Donc c'est quelque chose de tout à fait... C'est un risque qui ne repose sur aucune réalité.
J'entendais ce matin, par exemple, une infirmière dire « je peux avoir la sclérose en plaques dans 5 ans », ça n'a pas de sens.
Non, c'est-à-dire qu'on peut... tout dire, on peut dire je risque d'avoir à cause du vaccin un accident d'automobile parce que ça va jouer sur mon cerveau, je serai moins attentif quand je conduis. On peut tout dire, on peut raconter n'importe quoi. Ce qu'il faut, c'est faire l'observation. Bien entendu, il va y avoir un suivi extrêmement attentif de toutes les personnes vaccinées et pas simplement pendant quelques minutes ou quelques semaines, mais pendant des années, pour s'assurer que effectivement ce vaccin n'engendre pas des complications à distance. Oui. Mais plus le temps passe, plus on a de recul par rapport aux premiers essais de Pfizer et de Moderna, plus on s'aperçoit que ça n'est pas fondé. Et ce qui va dans le même sens, c'est que ce que l'on injecte dans ce vaccin, c'est un tout petit morceau d'ARN, encore une fois, qui est très fragile et qui va être débobiné très vite dans notre cellule, enveloppé d'une petite couche de lipides, qu'on appelle nanoparticules lipidiques, qui le protègent, et c'est vraiment rien, c'est de la graisse, on en a plein nos cellules de ça. Je veux dire, il n'y a pas d'éléments chimiques qui puissent faire peur, qui puissent engendrer un danger tout de suite ou à distance.
Bah merci, merci beaucoup, une pause, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Yves Buisson, si j'ai bien compris, parce que moi je suis pas très doué, le vaccin qu'on va envoyer permet au corps de comprendre comment il doit se défendre, c'est ça ? De créer lui-même sa défense d'une certaine manière.
Et on fait faire à notre cellule le travail que ferait le virus s'il nous infectait, c'est-à-dire il produit juste l'antigène contre lequel on va produire des anticorps qui nous protégeront.
Mais qu'est-ce qui est différent du vaccin traditionnel ?
Dans le vaccin traditionnel, par exemple, c'est encore le vaccin chinois, par exemple, on prend le coronavirus, on l'inactive, c'est-à-dire qu'on l'empêche de devenir, pouvoir se multiplier avec des procédés chimiques, et on l'injecte comme ça. Alors quand on injecte un virus tout entier inactivé, il y a bien sûr l'antigène qui est intéressant, toujours cette fameuse protéine S, mais il y a tout le reste. Tout l'équipement du virus. Et ça fait que notre système immunitaire, il va reconnaître un ensemble d'antigènes contre lesquels il va produire des anticorps. Certains n'ont aucun intérêt. Certains même peuvent avoir un effet adverse à celui que l'on cherche. Alors que l'avantage dans les vaccins ARN messager, c'est que l'ARN nous fait fabriquer dans nos cellules le seul antigène d'intérêt contre lequel il faut réagir, il faut produire des anticorps pour être protégé contre la maladie.
Stéphane qui sera notre dernier auditeur. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs et bonjour professeur.
Est-ce qu'il faut reconfiner Marseille ?
Bah écoutez, je suis aide-soignant intérimaire d'une cinquantaine d'années. Je ne suis pas, médecin ni épidémiologiste et tout ça, mais comme beaucoup de soignants depuis des années, on dit qu'il faut nous écouter des professionnels sur le terrain. Alors je serais peut-être dur, effectivement. Je pense que oui, il aurait même fallu être plus dur et reconfiner peut-être tout le pays un bon moment pour qu'on s'en sorte définitivement. Voilà, je trouve que c'est dommage que les gens, après 65 millions d'entraîneurs qu'on a eu en 98, on a 65 millions de médecins aujourd'hui. Moi, ça me gêne quand quelqu'un qui n'est pas de la profession vient m'expliquer mon travail et je pense que ça serait pareil pour les autres professions. On n'en sait pas plus sur le vaccin. Je suis comme tout le monde. J'aurais préféré attendre un petit peu. Maintenant, je fais confiance quand même à la plupart des médecins. Pas ceux qui vont sur les réseaux sociaux et qui s'agitent comme beaucoup font en ce moment, comme beaucoup de populistes font en ce moment. Mais oui, je pense qu'il faudrait effectivement peut-être reconfiner plus durement. Je suis comme tout le monde. Ça m'embête. Ça m'emmerde. Excusez-moi le mot.
Non, mais le professeur Buisson va vous répondre.
Voilà, je trouve que peut-être qu'on n'explique pas assez les choses, excusez-moi.
Ah ça, on a arrêté là, on les explique.
Non, attendez, c'est pas qu'on n'en fait pas assez, on est peut-être
On passe notre temps à tout expliquer. On a l'impression de faire la même émission matin, midi et soir parfois.
Alors, non, c'est vrai que beaucoup le font. Je trouve que peut-être certains petits détails plus concrets, ne pas rentrer dans
Là, je suis pas d'accord avec vous. Là, le professeur Buisson vient de nous expliquer clairement l'avantage de cette nouvelle technologie par rapport à l'ancienne.
Donc, non, je suis d'accord, moi je l'entends tout à fait. Est-ce que, je veux pas être présomptueux, mais est-ce que tout le monde l'entend, est-ce que tout le monde le comprend?
La meilleure pédagogie, c'est la répétition.
Bah oui, mais vous savez, c'est
professeur Buisson vous répond. Parce qu'on est un peu pressé, il nous reste une minute.
Oui, mais juste sur la faut-il ou pas reconfiner Marseille, c'est une décision qui appartient aux édiles et aux responsables politiques. Hein. Encore une fois, entre le tout et rien, je comprends très bien la position d'un aide-soignant qui est au contact des malades et voyant que les services se remplissent et qu'on est obligé de faire le tri entre les malades, va dire il faut arrêter tout ça, il faut confiner. À l'inverse, lorsqu'on pose la question au restaurateur, il va avoir un autre langage. Chacun voit midi à sa porte et dit, et c'est pour ça qu'il est très très difficile de faire ses choix. C'est pas se défausser que dire c'est une décision politique. Le politique doit entendre nos arguments scientifiques, mais il ne nous revient pas, nous scientifiques, de dire ce qu'il faut faire. D'autant encore une fois, je trouve bien que ce soit des décisions territorialisées et non pas généralisées sur l'ensemble du territoire actuellement, puisqu'on a une disparité de la situation épidémiologique. On voit qu'à Marseille, il faut sûrement faire quelque chose, mais ce n'est sûrement pas les mêmes mesures qu'il faut prendre à Marseille que celles qu'il faut prendre dans d'autres villes qui sont également touchées par le
Covid. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Buisson. Merci pour votre pédagogie et toujours la clarté de vos explications. Dans un instant, ce sera Flavie Flamand, mais comme Cyprien Sini est passé nous voir dans le studio, Cyprien Sini, l'arrêt de travail qu'on fait soi-même.
Vous avez essayé l'arrêt de travail tout seul ?
Je vous ai écouté ce matin.
C'est facile comme deux clics. Le bonheur en deux clics.
Bon, et vous savez ce que vous faites déjà demain soir le Cini de l'info, le surf de l'info?
Non, demain matin, je ne sais pas encore.
Non.
Je colle à l'actualité, j'attends de voir ce qui va se passer.
Et qu'est-ce que vous faites là à 14h27 parce que c'est pas votre heure?
Je prépare le monde de demain, de ce soir, avec Thomas Soto.
Ah, parce que vous êtes aussi le soir, à 19h52, le monde de demain.
Tout à fait.
Et vous savez ce que vous allez faire?
Oui.
C'est quoi?
Ah, c'est une surprise.
Non.
Oui, on va parler de café.
De café. Bon, Flavie Flamand dans une seconde. Merci d'être passé par notre studio.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.